Vous écoutez présentement 2 crèmes, 8 sucres, le balado de sensibilisation sur les dépendances. Nous tenons à vous aviser que le contenu de cet épisode ne peut en aucun cas substituer l'avis d'un professionnel de la santé et des services sociaux. Bonne écoute! Bon, ben bonjour tout le monde. Bienvenue à cet épisode de notre balado 2 crèmes 8 sucres. Aujourd'hui, on va parler du TAO, qui est le traitement par agoniste opioïde. On reçoit Dr. François Venne, qui est médecin de famille depuis 5 ans. Dr. Venne travaille auprès des personnes issues des Premières Nations, notamment au Centre d'amitié autochtone. Il est aussi une des personnes à l'origine du développement des services en TAO pour l'Abitibi-Témiscamingue. Je pensais mettre la table un peu avec des statistiques sur la crise des opioïdes au Canada. Fait que je vais juste vous en parler un petit peu là, avant qu'on commence. La crise des opioïdes a frappé fort au Canada entre janvier 2016 et mars 2022, avec plus de 30 000 décès apparents dus à la toxicité des opioïdes et plus de 30 000 hospitalisations pour intoxication liées aux opioïdes. La pandémie semble aussi avoir aggravé la situation. Pendant les deux premières années de la pandémie, c'est-à-dire de avril 2020 à mars 2022, le nombre de décès apparents liés à la toxicité des opioïdes a augmenté de 91 % et le nombre d'hospitalisations, lui, a augmenté de 24 % par rapport aux années précédentes, ce qui est quand même vraiment pas négligeable.
C'est des chiffres qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça, en fait, qu'on a un épisode aujourd'hui pour expliquer les beaux services qui ont été mis en place suite à cette crise. J'allais dire cette belle crise-là, mais elle est dégueu, cette crise. Donc, premièrement, Dr. Venne, merci d'avoir accepté l'invitation.
Mais ça me fait plaisir. Merci de me recevoir.
Donc, si on commence par la première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le traitement par agoniste opioïde qui vient jouer comme rôle, là, justement, face à la crise des opioïdes?
Oui, bien, premièrement, vous pouvez me tutoyer, ça me fait plaisir. puis, pour répondre à ta question, Anne-Marie, en fait, le traitement par agoniste opioïde, le but, en fait, c'est de permettre à des gens qui ont une dépendance aux opioïdes de recevoir un traitement qui est pharmacologique, dont on connaît la teneur, parce qu'on sait que, tu sais, Audrey-Anne en a parlé un petit peu tantôt, là, des décès liés à la crise des surdoses, puis en fait, le grand enjeu, puis la cause de ces décès-là, c'est que les opioïdes sont contaminés. Les opioïdes illicites qu'on achète sur le marché noir, dans la rue, sont contaminés souvent par des opioïdes synthétiques. On a beaucoup entendu parler du fentanyl, par exemple, qui sont des opioïdes très puissants et qui vont mener à des surdoses. Chez des gens qui consommaient déjà des opioïdes ou qui ont une dépendance aux opioïdes. Fait que le but du TAO, c'est de donner une molécule qui est connue, un médicament dont on connaît la teneur, puis qu'on est capable de doser, de contrôler, pour éviter que les gens consomment des opioïdes qu'ils achètent dans la rue ou sur le marché noir, et donc éviter ou en tout cas diminuer de beaucoup leur risque de surdose associé à ces opioïdes-là.
Ça permet d'avoir une espèce de contrôle par la connaissance dont c'est exactement c'est quoi qu'il y a dans la molécule que vous offrez aux patients. Hey, d'ailleurs, Audrey-Anne, j'aimerais ça peut-être ajouter que tu travailles avec Dr. Venne, François, à la clinique TAO.
Oui, on travaille ensemble, fait que c'est pas mal dans mon champ d'expertise, moi aussi, le TAO.
Parfait, j'ai aucun problème aujourd'hui à être la personne qui va poser des questions parce que je veux en connaître davantage. Souvent, on va parler de types de molécules, justement, de médicaments là, pour les opioïdes. J'aimerais ça savoir c'est quoi les médicaments qu'on prescrit en clinique TAO, puis comment ça fonctionne?
En fait, il y a trois grands médicaments qu'on prescrit. Le classique dont on a des fois entendu parler, c'est la méthadone. La méthadone, c'est un opioïde de synthèse qui existe depuis les années 60, qui est utilisé en fait depuis les années 60 pour le traitement de la dépendance aux opioïdes. Là, on appelle dépendance ou trouble de l'usage. Là, il y a différents termes. C'est ça. La méthadone, donc, c'est un médicament opioïde qui est à longue durée d'action. Qu'on va en fait mettre dans du jus d'orange, que la personne va prendre une fois par jour. Puis en fait, la méthadone, puis en fait, le TAO en général permet de faire en sorte que la personne, avec une prise de médication par jour, va être stable pendant 24 heures au complet. Okay. Parce que ce qui se passe chez les gens qui ont une dépendance aux opioïdes, c'est qu'ils vont consommer des opioïdes qui sont souvent sous la forme courte action. Ça veut dire, mettons, de l'héroïne, des opioïdes pharmacologiques comme du dilodide ou des choses comme ça. Puis, ce qui se passe, c'est que une fois que la dépendance aux opioïdes s'est installée, si tu arrêtes les opioïdes de façon trop rapide, ben, tu peux faire face à des symptômes de sevrage. Ça veut dire que ton cerveau, dans le fond, c'est comme habitué à avoir tout le temps plein d'opioïdes. Puis, si on les arrête du jour au lendemain, ben, ils n'aiment pas ça. C'est un peu là comme on entend parler des fois le sevrage d'alcool avec les tremblements, ces autres symptômes-là. Mais le sevrage des opioïdes, lui, c'est pas un sevrage qui est dangereux, contrairement au sevrage d'alcool, mais c'est un sevrage qui est très désagréable. Fait que, tu sais, les gens vont avoir de la douleur un petit peu partout parce qu'on sait que les opioïdes sont utilisés notamment pour le contrôle de la douleur.
Ben oui.
Vont avoir, tu sais, le nez qui coule, vont avoir des diarrhées, vont avoir des nausées, des vomissements. Puis ça, c'est un sevrage qui peut s'étendre quand même sur plusieurs jours avant que les symptômes se résoudent. Fait que donc, c'est très désagréable. Puis ça contribue au fait que les patients qui consomment des opioïdes vont continuer à en consommer. Parce qu'à un moment donné, tu sais, l'effet un peu euphorisant, le fun de consommer des opioïdes, parce qu'il y a quand même, tu sais, des...
Ben, faut qu'il y ait des avantages.
C'est ça. Il y a quand même des points positifs, mais après un certain temps, quand la dépendance est installée, ben, les patients vont surtout continuer de consommer parce que ils veulent pas tomber en sevrage. Fait que, pour revenir à la question, la méthadone, ce qu'elle fait, c'est que au lieu que la personne, tu sais, à toutes les 4 à 6 heures, parce que l'opioïde qu'elle a consommé arrête de faire effet dans son corps, puis qu'elle tombe en sevrage, ben elle prend la méthadone une fois par jour. Puis le but du traitement, c'est d'arriver à une dose où la personne va être confortable 24 heures sur 24. Fait qu'elle n'aura pas de symptômes de sevrage, donc elle sentira pas le besoin d'aller consommer des opioïdes. Puis en fait, tu sais, toutes les TAO fonctionnent un petit peu comme ça. Fait qu'on a parlé de la méthadone.
Excuse-moi, François, j'ai juste une question.
Oui,
là,
ben oui.
Passe, mais la méthadone, une fois que vous le prescrivez à la clinique TAO, est-ce que c'est un médicament que les gens doivent prendre toute à vie par la suite ou?
C'est une bonne question. Je te dirais, tu sais, que chaque personne a un parcours qui est différent. La majorité du temps, on recommande de prendre cette médication-là pendant un certain temps. Pour certaines personnes, ça peut être quelques mois. Pour d'autres, ça va être quelques années. Mais il y a des patients, il y a des personnes qui vont continuer à prendre la méthadone ou les autres types de TAO à vie, effectivement. Parce qu'en fait, dans le temps avant que le TAO existe, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait de la fameuse désintox.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'on disait aux patients, ben on va t'admettre dans le centre de thérapie, on va arrêter les opioïdes, puis tu vas passer à travers ton sevrage, puis après ça, tu vas être guéri parce que tu ne prendras plus d'opioïdes.
C'est un peu la passée magique de juste à arrêter.
C'est ça. Okay. Mais malheureusement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette façon de faire-là était délétère pour les personnes qui consomment des opioïdes ou qui ont une dépendance parce que souvent, en fait, je pense que les chiffres, c'est quelque chose comme 80-90% des gens vont faire une rechute dans l'année suivante, donc vont recommencer à consommer. Puis là, ce qui est dangereux, c'est que le corps s'est un peu déshabitué des opioïdes. Puis si tu reconsommes la même chose, la même dose, mais c'est là qu'il y a un risque de surdose aux opioïdes. Okay. Puis c'est là que ça
si
peut être dangereux.
C'est comme si tu perdais ta tolérance un
exactement.
Peu.
Exactement, okay. Oui.
Ah, c'est quand même intéressant, puis c'est important, je pense, à savoir dans un épisode de balado, là, comme aujourd'hui, quand on veut sensibiliser tout le monde à dire
ouais.
Ta tolérance, tu risques de la perdre. Fait que
c'est vraiment important.
Ouais, tu n'es peut-être pas obligé de reconsommer la même quantité
c'est
et
ça.
Tout. Ben, en
exact.
Fait, c'est à proscrire. Là. Tu ne devrais pas faire ça et faire attention, puis peut-être consommer des plus petites quantités.
Puis il y a aussi, c'est ça, nous, dans notre vision, comment on traite les gens. Avec le TAO, c'est selon leurs objectifs à eux. Fait que si eux, leur objectif, c'est pas d'arrêter de prendre la méthadone, il n'y a pas vraiment... Tu sais, je veux dire, à moins que ça serait dangereux pour sa vie ou pour sa sécurité, là, peut-être qu'on serait dans l'obligation de diminuer, mais sinon, il va avec leur objectif à eux. Puis, tu sais, ça traite les symptômes de sevrage physique, mais aussi tout l'aspect psychologique. Puis sûrement qu'Anne-Marie, t'es encore meilleure que moi pour parler de ça, là, mais... T'sais, c'est ça, la méthadone va régler les symptômes physiques, mais après ça, il y a tout l'aspect psychologique, les cravings, les envies de consommer, toutes les histoires de trauma qui viennent avec la conso qui ne se règlent pas en claquant des doigts non plus. Là.
Hey, non, totalement. Puis ça, c'est un travail d'une vie, là, pratiquement. C'est ça. Mais effectivement, là, c'est quelque chose qu'on pourra aborder dans d'autres épisodes, bien entendu, là, le sevrage psychologique, parce que juste ça, on pourrait en parler là, pendant des heures. Puis, dans le fond, Audrey-Anne, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu là, ton travail avec Dr. Venn? C'est quoi la différence entre vous deux?
Et... Dans le fond, ben c'est ça. Dr. Venn, là, il a expliqué une molécule, mais dans le fond, les deux autres, peut-être qu'on pourrait y revenir après. Mais ben c'est sûr que moi, dans mon rôle, je fais l'évaluation de la personne qui a besoin ou qui vient chercher de l'aide pour le TAO. Après ça, je fais toute l'évaluation physique, tout ce qui est prise de sang, qui est vraiment plus spécifique à l'infirmière. Aussi de l'enseignement sur la consommation à risque réduit, prévention des surdoses. Mon rôle est quand même vraiment assez large, là, je dirais. Là. Je pourrais passer beaucoup de temps à expliquer qu'est-ce que je fais. Ensuite de ça, ben, une fois que la personne a eu sa prescription pour débuter le traitement, ben, moi, je vais vraiment faire un suivi avec assez régulièrement pour voir si sa dose est assez ajustée. Y a-tu des symptômes de sevrage? À l'inverse, y a-tu comme beaucoup de symptômes d'effets secondaires? Puis je communique avec le médecin pour qu'on ajuste les doses, etc. Mais je peux aussi faire tout ce qui est soins de plaie, vaccination, dépistage des ITSS.
OK, wow.
Mon Dieu, quoi d'autre?
C'est pas mal elle qui run la clinique. Dans le fond, moi, je fais pas grand-chose.
Non, mais non. Ce que j'aime de votre clinique, en fait, c'est vraiment que vous êtes une équipe puis que vous maintenez un suivi. Dans le fond, là, c'est pas vous rencontrer la personne une fois puis après ça, merci, bonsoir. Là, il y a vraiment une suite qui est donnée.
Oui, puis on a aussi comme une vision que la personne a... Elle vient à une place, là. Tu sais, je veux dire, si elle a besoin d'un dépistage, je vais pas l'envoyer au CLSC pour y faire. Je suis là sur place. Fait que c'est comme dans notre vision de nos suivis, de faire tout au même endroit, là. C'est moins compliqué aussi pour les gens qui sont peut-être plus vulnérables.
Oui, puis c'est juste humain, là. Fait que c'est tout à votre honneur. Puis oui, docteur François, il faudrait revenir aux autres molécules, effectivement. Il en reste deux autres.
Oui, fait qu'en fait, c'est ça, on a parlé de la méthadone qui est comme la grand-maman du TAO. Mais maintenant, la molécule qu'on prescrit le plus, c'est la buprénorphine naloxone, qui est un petit peu différente de la méthadone parce que autant la méthadone, elle peut avoir des effets secondaires importants, elle peut être associée à certains risques au niveau cardiaque, puis elle peut quand même être associée à un certain risque de surdose parce qu'on donne quand même un opioïde. Puis tous les opioïdes sont associés à un risque de surdose. Bien, la buprénorphine, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle agit, mais elle agit seulement partiellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dose de buprénorphine qui va causer une surdose. Donc, même si la personne, tu sais, consomme plus que sa dose prescrite, bien, il y a peu de chances qu'elle développe une surdose, à moins qu'elle consomme d'autres substances par-dessus, par exemple là, des benzodiazépines ou d'autres médicaments là, ou substances qu'on appelle des dépresseurs, fait qu'ils vont déprimer un petit peu le système nerveux central, le cerveau. Fait que la buprénorphine, à cause de cette caractéristique-là qui la rend plus sécuritaire, bien, maintenant, c'est vraiment elle qu'on va prescrire. Et c'est plus facile aussi à administrer parce que la méthadone, on la mélange avec du jus d'orange pour éviter que la personne se l'injecte à la place de l'avaler.
OK, je pensais que c'était juste pour que ça goûte meilleur.
Non, c'est ça. Non. Fait que, ceci dit, la buprénorphine, apparemment, selon nos patients, elle goûte pas très bon. Peut-être que ça pourrait être un avantage de la méthadone.
La buprénorphine, c'est la suboxone?
Oui, c'est ça, okay. Exact. Fait que buprénorphine, naloxone, c'est comme deux médicaments en un. Puis en fait, la naloxone, peut-être vous l'aurez reconnu, c'est l'équivalent là, de l'antidote des opioïdes, là, le fameux Narcan qu'on donne en injection ou en push-push intranasal. Puis en fait, une des caractéristiques aussi qui rend la suboxone ou la buprénorphine, naloxone sécuritaire, c'est qu'il y a de la naloxone dedans. Ça veut dire que si la personne essaie de se l'injecter à la place de la prendre par la bouche.
Elle n'aura
pas d'effet.
Ah, c'est intéressant quand même.
Fait qu'elle fait pas, la naloxone ne fait pas effet quand on prend par la bouche.
Non, c'est ça, c'est juste ça. Quand on s'injecte. Fait que pour cette raison-là, puis en fait, la suboxone, dans le fond, elle est disponible en comprimé qu'on fait fondre sous la langue. Fait que c'est vraiment plus simple que de devoir caler ta bouteille de jus d'orange à tous les jours.
Puis ce que j'entends, dans le fond, c'est que le patient n'est pas obligé d'aller à la pharmacie comme pour la méthadone à tous les jours.
Exactement. C'est ça, on est beaucoup plus à l'aise de donner des doses de suboxone à emporter à la maison, alors qu'avec la méthadone, même si ça peut prendre un petit peu plus de temps, on veut être sûr que la personne est sécuritaire avec ses doses. Parce que si, par exemple, un enfant ou une personne qui ne prend pas d'opioïdes tombe sur une bouteille de méthadone, mais là, ça peut être beaucoup plus dangereux que sur un comprimé, par exemple, de Suboxone.
J'ai déjà entendu un peu le mythe, là, que le mythe ou la réalité, c'est peut-être vous qui allez me le dire, mais que le Suboxone pouvait amener des gros symptômes de sevrage, puis que c'est pour ça des fois que les gens ont la crainte d'avoir cette prescription-là.
En fait, ça dépend... Ça dépend beaucoup de comment la Suboxone, elle est commencée. Dans le temps, en fait, on demandait aux personnes d'arrêter les opioïdes, fait d'être dans un certain sevrage. Parce qu'en fait, la Suboxone, elle aime beaucoup, beaucoup les récepteurs d'opioïdes dans le cerveau. Hein. Pour faire un effet, une substance, elle se fixe sur un récepteur au niveau du cerveau, puis c'est ça qui va déterminer son effet. Fait que la Suboxone, ben quand elle voit un récepteur d'opioïdes, elle va se fixer dessus. Puis en fait, elle va comme kicker l'autre opioïde hors du récepteur. Ça veut dire que si tu as de la morphine dans ton sang, puis tu prends de la Suboxone, bien c'est la Suboxone qui va gagner. Donc c'est elle qui va se lier au récepteur. Puis comme on a dit tantôt, vu que c'est elle a un effet qui est moindre que la morphine, bien les gens peuvent développer des symptômes de sevrage à cause de ça. Fait que pour être sûr que tu n'as plus de morphine dans le sang, bien on te demande d'arrêter la morphine un peu de temps avant, puis d'être en sevrage. Fait que c'est vrai que c'est plus difficile pour la personne de commencer la Suboxone pour cette raison-là. Ceci dit, tu sais, là, on a un petit peu plus de recul sur l'utilisation de cette molécule-là. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'elle est commercialisée.
Hey, quand même, hein?
Oui, oui.
C'est pas d'hier là, qu'on parle
de pioïdes. Non, c'est ça, exactement. Okay. C'est pas un nouveau problème, puis c'est pas un problème qui va s'en aller très bientôt non plus.
Ça ne fait qu'augmenter, malheureusement.
Fait que c'est ça. Maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en commençant la Suboxone à très, très, très petite dose, puis en l'augmentant tranquillement, pas vite, sur une semaine ou deux, ben on n'a pas de symptômes de sevrage, même si la personne continue de prendre des opioïdes. Fait que maintenant, c'est pas mal la façon qu'on a de la commencer. Mais c'est vrai que, tu sais, les gens ont peut-être en tête encore cette façon de la commencer, là, qui est un petit peu désagréable. Ouais, c'est ça, exactement.
Puis il y a aussi, dans la même lignée, je pense, avec la Suboxone, la buprénorphine injectable, maintenant, qui est intéressante une fois que tu as une dose stable avec la Suboxone par la bouche, c'est qu'on peut injecter une dose de buprénorphine qu'on donne aux 28 jours. Fait que la personne, après ça, est 28 jours comme sans se casser la tête, a pas besoin de penser à prendre ses médicaments, tout ça. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, là.
Wow, OK. En tout cas, excuse-moi, là, je viens comme de découvrir ce médicament miraculeux-là, mais j'imagine aussi qu'il y a des avantages puis des désavantages comme chaque médicament. Puis c'est vraiment une discussion qu'ils peuvent avoir avec vous.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Okay. C'est pas tout le monde qui peut l'avoir, mais chez les gens qui peuvent l'avoir, c'est quand même vraiment le fun parce que une des choses avec le TAO, c'est que ça peut être un traitement qui est quand même restrictif pour la personne qui le prend. Parce qu'effectivement, comme tu as dit tantôt, Anne-Marie, tu sais, à part pour la Suboxone, bien souvent, on va demander aux patients dans les premiers temps de venir à la pharmacie à tous les jours pour être sûr que la dose de son TAO soit prise comme il faut. Donc, le pharmacien doit l'observer, prendre sa dose. Puis c'est sûr que, tu sais, ça implique de vraiment comme prendre du temps dans ta journée, d'aller à la pharmacie, d'essayer toujours d'y aller à la même heure. Là, il y a toujours des enjeux avec les heures d'ouverture, les patients qui travaillent, ça peut être plus compliqué. Fait que ce qu'on essaye de faire, tu sais, c'est vraiment de limiter l'impact que ce cadre-là peut avoir sur la personne qui est dépendante. Puis la buprénorphine injectable, ça, c'est vraiment une belle façon de le faire, là.
Mais tu sais, je pense juste à vouloir aller en vacances aussi. Exactement. Ça permet des choses comme ça. Puis on parle aussi, tu sais, souvent de la stigmatisation aussi face à nos clients. Ben, le fait d'aller à la pharmacie à tous les jours versus aller à une injection.
Puis l'injection, on peut la voir direct en clinique aussi. Là, tu sais, on n'a pas besoin de se déplacer ailleurs. Fait que, ouais, ça a quand même beaucoup d'avantages.
OK, bien, j'ai hâte d'en voir plus, puis j'imagine qu'il va y avoir plein d'études aussi par rapport à ça. Fait
probablement.
Que ça risque d'être une molécule qu'on va voir de plus en plus prescrite, là, j'imagine. Mais c'est une discussion qu'on a avec vous, là, un peu sur les facteurs de risque, facteurs de protection à pouvoir avoir ce médicament-là. Puis là, il en reste un autre, j'avais déjà entendu parler de Cadian, c'est-tu celui-là?
Oui. Dans le fond, le Cadian, c'est On l'appelle aussi la morphine à libération lente unicotidienne.
La MLU.
La MLU.
La MLU. C'est bon, j'aime ça.
La MLU, c'est de la morphine comme on peut avoir de la morphine courte action qui peut être prescrite par le médecin, sauf qu'elle est à libération lente. Ça veut dire que ça prend 24 heures avant qu'elle soit toute libérée dans l'organisme au niveau de l'estomac. C'est un peu comme la méthadone. C'est un peu le même principe dans le sens où elle aussi, là, va avoir le même effet que la méthadone, sauf que il y a quand même des avantages par rapport aux effets secondaires. Il y en a un petit peu moins par rapport aux impacts qu'il peut y avoir au niveau cardiaque, par exemple. Puis l'autre avantage aussi, c'est que on est capable de monter la dose beaucoup plus rapidement. Parce qu'un des principes de base du TAO, c'est que toutes les molécules qu'on utilise en TAO, c'est des molécules qui, plus on augmente la dose, plus elles vont durer longtemps. Puis comme je disais tantôt, notre but, c'est d'atteindre une durée d'action de 24 heures. Mais ça se peut qu'au début, quand on commence, ben la dose, elle dure, tu sais, 5-6 heures. Donc, pendant 18-19 heures de la journée, la personne, elle a des symptômes de sevrage, elle n'est pas confortable. Okay. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on fait à la clinique TAO, c'est entre autres ça, là, d'être capable d'augmenter tranquillement la dose de TAO jusqu'à temps que la personne soit confortable et qu'elle n'ait pas d'effet secondaire. Mais avec la méthadone, à cause de certaines particularités de la molécule, on ne peut pas augmenter si ça ne fait pas 5 jours que tu la prends. Puis habituellement, tu sais, juste pour vous donner un exemple, une dose de méthadone, tu sais, où la personne est confortable, ça tourne dans les 120-140 mg. Puis on commence toujours avec 40 mg de méthadone, sauf dans quelques exceptions, mais habituellement, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça prend comme 50 jours avant d'arriver à une dose de 140 où la personne est confortable. Fait que ça peut être longtemps. Alors qu'avec le Cadian, mais cette durée-là, elle est réduite à peu près 48 heures. Fait que ça nous permet d'atteindre des doses, nous, on appelle ça des doses de confort, où la personne n'a pas de symptômes de sevrage, beaucoup plus rapidement qu'avec la méthadone.
Dans le fond, votre but, c'est de faciliter la vie des gens puis être plus dans la bienveillance.
Je pense qu'ils retrouvent une qualité de vie aussi parce que, tu sais, les troubles d'utilisation des substances, ça vient souvent avec des conséquences sur la vie des gens, là, que ce soit des conséquences financières, familiales, sociales... dans toutes les sphères de leur vie. Fait que le but, je pense, c'est surtout d'améliorer ce côté-là aussi. Tu sais, s'ils sont capables de ne pas passer leur journée à chercher des substances à consommer pour ne pas avoir de symptômes de sevrage, bien, ils vont avoir plus de temps pour se trouver un emploi, puis se trouver un logement, puis refaire les liens avec leur famille, etc. Fait que c'est beaucoup pour la qualité de vie aussi. En tout cas, de mon point de vue à moi. Là.
Ouais. C'est vraiment ça qu'on vise, en fait. Parce que, tu sais, dans le temps, le TAO, c'est quelque chose de beaucoup plus sévère ou restreignant. T'sais, les patients devaient faire, par exemple, des dépistages de drogue urinaire. Donc, on devait voir s'il y avait des substances dans l'urine. Puis si jamais, mettons, on voyait qu'il y avait que leur dépistage de drogue urinaire n'était pas négatif, qu'il y avait d'autres substances, bien là, ils se faisaient restreindre dans leur traitement. Parce qu'avant, puis bon, ça va un petit peu avec toute notre société judéo-chrétienne, on visait vraiment l'abstinence aux substances. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est surtout... que la personne, justement, elle ait une qualité de vie, qu'elle ait une stabilité psychosociale, qu'elle puisse se sortir un petit peu de cette dépendance-là. Mais on ne vise pas nécessairement l'abstinence parce qu'il y a des patients qui veulent continuer à consommer. Puis, on le disait tantôt, il y a quand même des points positifs à la consommation jusqu'à un certain point.
Mais comme la réduction des douleurs pour les opioïdes. Exactement. C'est quand même un point qui est important puis pas à négliger.
Exact.
Puis, ça me parle, là, François, ce que tu dis, parce qu'en dépendance aussi, c'est la même chose qu'on veut, c'est réduire les conséquences que consommation amène, puis on n'est plus dans une approche de abstinence totalement.
Exact.
S'il y a des gens que c'est leur objectif, go, on y va à peine à planche, mais on y va vraiment toujours avec les objectifs. Fait que ce que j'entends aussi, c'est que le traitement par agoniste des opioïdes, c'est quelque chose qu'on peut prendre aussi, puis en consommant quand même aussi, on n'arrête pas ça, là. Y a-tu des risques que quelqu'un consomme? Je suis quand même un peu inquiète, là.
C'est une excellente question. Ouais. Ça dépend toujours du type de molécule. C'est sûr qu'avec la Suboxone, la buprénorphine, qu'on disait que c'était comme le traitement le plus sécuritaire, comme je vous disais tantôt, tu sais, elle aime tellement les récepteurs que même si tu consommes d'autres opioïdes par-dessus, ces opioïdes-là n'auront pas d'effet. Parce que dans le fond, ils vont pas... Ils vont ils vont pas kicker out la Suboxone. C'est sûr que le désavantage, c'est que si tu veux continuer à consommer par-dessus ton TAO, ben la Suboxone, des fois, ça permet pas de faire ça. C'est sûr que ça dépend un petit peu de à quelle dose puis des choses comme ça. Mais des fois, nos patients qui veulent maintenir quand même une certaine consommation, ben ils aiment moins la Suboxone pour cette raison-là. Okay. Pour ce qui est de la méthadone, puis du cadian ou de la mlu, tu peux consommer par-dessus, puis tu vas avoir un espèce d'effet additif, donc tu vas sentir ta consommation. Le seul bémol, c'est que comme les deux, la méthadone et le cadian sont des opioïdes, puis tu consommes des opioïdes par-dessus, bien, ça se peut que les deux s'additionnent ensemble, puis tu es à risque de faire quand même une surdose. Fait que ce qu'on dit à nos patients qui veulent continuer à consommer sur leur TAO, bien, c'est d'essayer de diminuer la dose qu'ils prenaient pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interaction, si tu veux, ou qu'il n'y ait pas d'effet additif avec leur TAO.
OK. Oui. C'est beaucoup aussi de la réduction des méfaits, là, tu sais, au quotidien, je pense, dans notre travail. Comme par exemple, là, je pense à quelqu'un qui voudrait continuer de consommer des opioïdes par-dessus son traitement. Ben, tu sais, il y a plein de choses qu'on pourrait conseiller, comme entre autres de consommer avec des gens ou dans des lieux sécurisés, avoir toujours de la naloxone sur eux, etc. Là. Puis ça m'amène à penser peut-être qu'on pourrait parler de l'approvisionnement plus sécuritaire.
Ben oui, totalement.
Qu'on est dans cette lignée.
Oui, ben je vais me lancer. Fait qu'en fait, l'approvisionnement plus sécuritaire, on en entend aussi parler sous le nom de « safer supply ». Puis en fait, c'est une approche, c'est vraiment de santé publique, de réduction des méfaits, qui est un peu distincte du TAO, mais qui des fois, tu sais, va avec le TAO. Ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on prescrit des opioïdes pharmaceutiques, courte action, à des patients qui vont les consommer à la place de s'acheter des substances sur le marché noir.
Mais c'est toujours dans un but de savoir qu'est-ce qu'ils consomment.
Fait que dans le fond, au lieu d'acheter ton dilodine sur le marché noir, que tu sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais pas trop s'il est contaminé avec du fentanyl ou avec d'autres opioïdes puissants, ben tu vas à la pharmacie puis tu vas chercher du dilodine pharmaceutique. Ça veut dire qu'on sait exactement c'est quoi la teneur, on sait exactement c'est quoi la dose que tu vas avoir. Fait que ça fait en sorte que les patients sont plus au courant de qu'est-ce qu'il y a dans leur consommation. Fait que ça permet de diminuer beaucoup le risque de surdose.
C'est ça votre but aussi en tant que médecin,
exactement.
C'est de protéger vos patients. Fait que je le vois vraiment dans une approche cool quand même qu'on soit rendu là, je trouve, au niveau de cette ouverture.
Puis en fait, ça va aussi avec notre but de répondre aux objectifs du patient. Parce que c'est sûr que le TAO, oui, tu peux consommer par-dessus, mais habituellement, les gens vont venir chercher un TAO parce qu'ils veulent réduire leur consommation puis, tu sais, devenir plus fonctionnel puis plus stable. Mais tu as aussi des patients qui ne sont pas nécessairement prêts à arrêter de consommer ou à réduire leur consommation. Mais avec l'approvisionnement plus sécuritaire, bien, au moins, ce qu'ils consomment, on sait que ça ne contient pas d'opioïdes puissants puis qu'ils ne vont pas faire une surdose ou en tout cas, ça diminue de beaucoup leur risque de faire des surdoses.
Puis aussi, je pense que ça fait qu'on sait qu'ils consomment quelque chose de plus que leur traitement. Sinon, autrement, sur le marché noir, ils ont tendance à ne pas vouloir nous le dire. Comme. On dirait qu'ils ont peur d'être punis ou je sais pas comment dire ça. Fait que c'est plus sécuritaire de cette façon-là aussi.
Oui. Parce qu'en fait, il y a deux façons de prescrire l'approvisionnement plus sécuritaire. Il y a des cliniques qui vont prescrire juste de l'approvisionnement plus sécuritaire. Ça veut dire que la personne, tout ce qu'elle va avoir, c'est du dilodine, puis elle va pouvoir soit le prendre par la bouche ou le consommer par voie intraveineuse, par exemple. Mais il y a d'autres cliniques. Nous, on a un petit peu cette approche-là. C'est qu'on va prescrire aussi une molécule de TAO par-dessus. Ça veut dire que, mettons, la personne, elle va aller à la pharmacie, elle va prendre sa méthadone ou elle va prendre son cadian, puis on va lui remettre des dilodines. Comme ça, si elle souhaite consommer par-dessus son traitement, ben elle va pouvoir le faire, puis ça va être de la médication qui est, dont on connaît la teneur.
On connaît la teneur, là, ouais.
Puis ça, c'est d'autant plus utile. Je vous disais tantôt que la méthadone, ça peut prendre longtemps avant qu'on ait une dose où le patient est confortable. Mm-hmm. Mais en attendant, au lieu de dire au patient, ben va consommer n'importe quoi sur la rue, ben ça nous permet aussi de savoir ce que la personne consomme. Puis on sait que c'est des substances qui sont plus sécuritaires.
Puis ce que j'entends, c'est qu'il y a toujours un suivi. Tu sais, vous prescrivez des médicaments, oui, oui. mais c'est pas « OK, c'est bon, on se revoit plus jamais, puis on vient d'y donner de la drogue, là, c'est zéro ça. » C'est des gens que vous avez en suivi, qui sont en traitement TAO aussi. Là, excusez-moi, mais vous m'ouvrez une porte sur les surdoses, puis j'aimerais peut-être qu'on puisse nous dire à quoi ça ressemble une surdose aux opioïdes. C'est une trop grosse question, je vous vois les
yeux. Non, non, puis en fait, je pense que c'est important que les gens soient sensibilisés aux symptômes que ça peut avoir parce que, on en a parlé tantôt, là, c'est un problème qui est quand même important là, à la grandeur du Canada. Fait que je pense que comme citoyen, c'est important de savoir c'est quoi puis de savoir comment intervenir par rapport à ça. Mais en gros, j'en parlais un petit peu tantôt, les opioïdes comme classe de substance, c'est des dépresseurs. Ça veut dire qu'ils vont, quand ils vont se lier aux récepteurs dans le cerveau, ils vont calmer le cerveau. Fait qu'ils vont diminuer la fréquence respiratoire, ils vont diminuer le pouls, ils vont relaxer, apaiser, parfois même endormir. Fait qu'une surdose, c'est un peu tout ça, mais au max. Fait que souvent, dans une surdose, la personne va être inconsciente ou difficilement réveillable. Elle va avoir une respiration qui est plus lente ou une absence de respiration. Des fois, il y a des patients qui peuvent faire des bruits respiratoires, là, des espèces de ronflements ou ce qu'on appelle du « grunting ». Que je ne vais pas vous
aucune imitation, mais non, je trouve ça important ce que tu dis, parce qu'on a déjà entendu des histoires où que les gens sont décédés par surdose, mais parce que les gens pensaient qu'ils dormaient et qu'ils ronflaient. Fait que c'est quand même
c'est
important
ça.
De savoir que ça peut être un signe.
Puis, tu sais, d'autres symptômes, ça peut être des symptômes qui sont dus au fait que parce que la personne respire moins vite, l'oxygène se rend moins dans son corps. Fait que, tu sais, donc des lèvres bleutées, des extrémités, donc le bout des doigts qui peut devenir bleuté. Une autre particularité aussi de la surdose d'opioïdes spécifiquement, c'est que ça donne ce qu'on appelle le myosis. Ça veut dire que la pupille va comme se contracter. Donc, les personnes vont avoir comme une toute petite pupille au niveau des yeux. Fait que ça peut être aussi un signe que la personne est en surdose d'opioïdes.
OK, myosis, c'est cool à mettre au Scrabble. Ça peut
oui, c'est ça.
J'imagine qu'il y a un Y quelque part.
Un ou deux
part.
Y, là, oui.
OK.
Puis aussi, ce qui est, je pense, intéressant de savoir, c'est que, tu sais, là, on parle beaucoup des opioïdes, on parle de surdose d'opioïdes, mais ça se peut aussi que des gens fassent des surdoses d'opioïdes alors qu'ils n'ont pas consommé d'opioïdes parce qu'il y a beaucoup de substances sur le marché noir qui sont contaminées.
Hey, totalement, là.
C'est ça. De savoir ça ressemble à quoi, une surdose, c'est vraiment important. Puis, dans le fond, la naloxone, qui est l'antidote là, pour la surdose d'opioïdes, tout le monde peut s'en procurer dans les pharmacies gratuitement.
Les
travailleurs de rue
aussi, je sais qu'il y en a plein qui en donnent. Vous en donnez à la clinique TAO aussi.
À peu près partout dans l'hôpital, je pense qu'on peut en avoir gratuitement. Puis dans les pharmacies, tu sais, le pharmacien n'est pas supposé poser de questions. C'est comme un peu anonyme, là. Fait que c'est sûr qu'on pourrait recommander d'en avoir.
Même si tu ne consommes pas, tu peux aller en chercher pour une autre personne. Parce qu'en fait, tu sais, la naloxone, d'en avoir sur toi, c'est bien. Mais c'est jamais quelque chose qui s'auto-administre. Ça veut dire que la personne, quand elle est en surdose, elle n'a pas l'état de conscience nécessaire pour se la donner. Fait que c'est toujours une autre personne qui va la donner. Fait que même si toi, tu ne consommes pas, mais que tu as des amis qui consomment ou tu connais des gens qui consomment, mais ça vaut la peine d'en avoir sur toi. Parce que si jamais ils consomment un opioïde ou ils consomment autre chose qui est contaminée par un opioïde, mais toi, tu vas pouvoir réagir à ça. Puis,
hey, on peut sauver
rapidement.
Des vies. Là. Moi, je trouve qu'on ne voit pas assez de naloxone. Moi, mon rêve un jour, c'est que la naloxone elle soit avec tous les défibrillateurs.
Ouais.
Puis effectivement, tout le monde peut aller s'en procurer. Fait qu'on devrait en avoir parce que c'est pas la personne qui consomme des opioïdes qui va l'utiliser.
Ouais.
Je trouve ça important qu'on nomme que c'est quand même l'antidote parce que des fois, ce qu'on entend, c'est bien là, la naloxone, ils vont consommer ça, ils vont avoir un buzz. Ça, c'est un mythe, là.
Non, c'est pas le fun. Parce que, dans le fond, l'analoxone, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève toutes les opioïdes de tes récepteurs. Fait que ça veut dire que tu tombes instantanément en sevrage. Tu sais, le fameux sevrage qu'on disait qui est vraiment pas le fun. Fait que c'est vraiment pas le fun pour les personnes qui consomment des opioïdes.
Le monde sont pas contents, en général, de recevoir
ça.
Ouais,
on s'attend pas à la Grey Anatomy qui nous remercie.
Non.
ouais, malheureusement, parce que dans le fond, on les met en sevrage, puis on vient de briser un peu leur dose. On brise un peu
On a comme scrappé la batch, là, si on veut.
Mais on s'en fout, honnêtement. On a sauvé une vie. Fait que moi,
puis je
veux
juste dire, dans le fond, pour les gens qui écoutent, là, c'est vraiment important, si on donne l'analoxone, d'appeler quand même le 911. parce que la naloxone n'a fait pas effet super longtemps. Si je me trompe pas, c'est comme maximum 30 minutes. Fait que la personne peut retomber en surdose après. Puis dans le cas de doute, si on n'est pas sûr que c'est vraiment une surdose aux opioïdes, mais qu'il y a des symptômes qui ressemblent, on peut quand même l'administrer. C'est pas dangereux de l'administrer, puis que finalement, ça soit pas ça. Fait que ça peut pas mettre la personne plus en danger.
Au pire, il se passe rien.
C'est ça, au pire, il se passe rien. Puis il y a aussi le site internet de l'INSPQ, qui est l'Institut national de santé publique du Québec.
Yes, t'as dit ça sans respirer, bravo!
qui explique tout, dans le fond, là, comment donner l'analoxone avec des beaux petits dessins, puis c'est quoi les signes et symptômes, etc. Fait que,
Sinon, je me permets, là, mais les pharmaciens ou tous ceux qui donnent des trousses de naloxone aussi vont vous donner une mini-formation là, en vous expliquant.
Oui, c'est sûr.
On vous explique le feuillet, comment on doit reconnaître,
comment administrer aussi. Il y a tous les outils, tous les feuillets dans les trousses de naloxone aussi. Là.
Oui, puis en fait, on a des fois l'impression qu'il faut ouvrir une fiole, préparer une aiguille, puis après ça, donner l'analoxone. Mais maintenant, la majorité des sites de distribution d'analoxone vont distribuer l'analoxone intranasal. Fait que c'est comme l'équivalent de se donner un push de Nasonex ou d'Avamis. Là.
Quand on a enrhumé.
Exactement.
Oui, puis dans le fond, ils n'ont même pas besoin de faire un... J'essaie de vous imiter le petit bruit là, de respirer. Il faut juste que ça aille dans les muqueuses. Fait qu'on fait juste mettre le nasal dans le nez. Pouf!
C'est
on pèse. Pis, OK, cool!
C'est assez facile à utiliser.
Parfait. Puis, excusez-moi, là, j'ai peut-être trop de questions aujourd'hui.
Non,
mais
j'aimerais
ça savoir quel type de personnes qui sont le plus sujettes à développer un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes? Ou on a-tu des facteurs de risque ou des facteurs de protection qui peuvent nous amener à développer plus de troubles que certains autres?
Bien, c'est sûr que tout le monde peut être à risque de développer une dépendance. Puis c'est sûr qu'on connaît certains facteurs de risque de la dépendance en général. T'sais, c'est certain que il y a une certaine composante génétique. C'est pas à 100%. Mais on sait qu'elle existe. Sinon, c'est sûr que ça dépend aussi des circonstances de vie, parce qu'on sait que chez les personnes, par exemple, qui vivent avec un trouble de santé mentale, mais il y a plus de dépendance. Après ça, c'est quoi la poule, c'est quoi l'œuf, c'est toujours difficile à départager. Mais on sait que cette association-là, elle existe. On sait aussi qu'il y a une association avec le statut socio-économique. Fait que les personnes qui vivent avec plus de précarité sociale, on sait qu'elles aussi, elles sont plus à risque de développer une dépendance en général. Après ça, pour la dépendance aux opioïdes, on sait qu'un des facteurs de risque aussi, c'est la douleur. Parce que, les opioïdes, c'est aussi des médicaments. Là, on en parlait un petit peu tantôt. C'est des médicaments qui aident à traiter la douleur. Des fois, c'est la seule chose qui fonctionne pour certaines personnes.
Mais qui permet d'être fonctionnel,
exactement.
Je rappelle. Ouais.
C'est ça. Mais le problème, c'est que c'est une substance qui a quand même un potentiel de causer une dépendance, notamment parce que on en parlait tantôt là, de la fameuse tolérance, mais le corps s'habitue. Fait que souvent, chez les patients qui ont des douleurs chroniques, c'est pas une bonne médication parce que ça finit par ne plus faire effet ou faire moins effet à cause du développement de la tolérance. Fait que là, les gens vont avoir tendance à vouloir augmenter les doses. Puis c'est là que c'est de plus en plus difficile de s'en défaire. Puis que les gens vont développer une dépendance.
Ah, excuse-moi, François, là, je me permets un commentaire vu que tu es docteur. Tu me dis que c'est peut-être pas le médicament le plus à prescrire, mais malheureusement, c'est quand même ce qu'on voit.
Oui. Bien, en fait, il faut faire vraiment la différence entre la douleur aiguë puis la douleur chronique.
Okay.
Fait que, tu te casses une jambe, les opioïdes sont indiqués, là. Ça, c'est certain, parce que ça fonctionne, ça va enlever ta douleur. Mais, dès que la douleur, elle devient chronique, souvent, on va parler de douleur chronique non cancéreuse, parce que chez nos patients avec des cancers, surtout, par exemple, les patients qui sont en soins palliatifs, bien, eux... C'est certain là, qu'on va leur prescrire des opioïdes.
Mais c'est pour ça qu'il y a encore des opioïdes sur le marché.
Exactement. Ouais, ouais. Mais c'est ça, dans la douleur chronique qu'on appelle non cancéreuse, fait qu'il n'est pas causé par un cancer, elle a moins sa place, justement à cause du risque de causer une dépendance. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait jamais la prescrire, mais ça veut dire que ça nécessite quand même un certain encadrement, un suivi, puis qu'on soit proactif par rapport au risque de dépendance. Puis dès que, dans le fond, il y a une suspicion là, que on perd le contrôle, bien là, la personne qui l'a prescrit doit faire un suivi par rapport à ça.
Je pense que c'est beaucoup de prévention qu'il faudrait faire plus, dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont partir de leur du bureau de leur médecin ou de l'urgence avec une prescription d'opioïdes puis qui n'auront pas été vraiment informées sur c'est quoi les risques, c'est quoi les signes qui me disent que crime, je commence à peut-être avoir une dépendance. Mm-hmm. Ou, fait que tu sais, ça les prend un peu par surprise. Là, fait que ouais. Moi, je pense que c'est aussi une partie du problème, selon ce que j'ai vu jusqu'à date. Là.
Ouais.
Puis si je peux revenir juste à, tu sais, tu demandais quel genre de personnes pouvaient avoir des dépendances aux opioïdes. Moi, là, je me souviens quand j'ai commencé à travailler à la clinique, j'ai comme resté un peu surprise de savoir à quel point il y a tout genre de personnes avec ce problème de dépendance-là. Puis je pense que en général, tout le monde a un peu la pensée, tu sais, c'est les personnes qui recherchent vraiment des sensations fortes là, qui consomment ce genre de drogue-là, mais... Il y a vraiment tout genre de personnes. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des personnes avec des emplois super renommés. Mm-hmm.
Tout niveau tout d'éducation monde... aussi.
Oui, c'est ça. Ouais. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il faudrait juste que le monde sache que tout le monde est à risque de développer ce genre de dépendance-là. Puis il faut vraiment le garder en tête. Hein.
Ouais. Je pense que ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est si jamais vous vivez avec de la douleur chronique, de parler à votre médecin puis de lui demander, tu sais, c'est quoi les risques de me prescrire des opioïdes, c'est quoi, tu sais, les effets secondaires que je peux avoir ou l'impact que je peux avoir à long terme. Puis aussi, est-ce qu'il y a des choses alternatives que vous pouvez me prescrire pour aider avec la douleur?
Ouais.
Fait que ça, je pense que c'est important, tu sais, de poser des questions puis d'avoir une discussion avec la personne. Je dis médecin, mais n'importe quel prescripteur, là, ça peut être une infirmière praticienne aussi. Mais de vraiment poser la question, là, tu sais, pour être au courant des risques puis de s'assurer d'avoir un suivi puis d'agir en conséquence.
Je pense qu'une discussion transparente, c'est le mieux vraiment. Là. Ouais.
Mais il y a peu de situations où c'est jamais une bonne chose. Là, de...
C'est ça. Plus j'y pense, plus que c'est vrai que souvent, avec les personnes avec qui on a des suivis, qu'on, finalement, ce qu'on fait, c'est de la gestion de la douleur chronique ou du moins, on essaye parce que le problème, à la base, vient vraiment souvent de ça. Pas toujours, là, mais... quand même souvent, là.
OK, cool. Ouais. Puis là, on parle de la clinique Tao à Val-d'Or, mais j'imagine qu'il y a des services en Abitibi-Témiscamingue au complet. Quelqu'un, peu importe où ce qui est.
Oui, bien, dans le fond, je peux peut-être expliquer un peu, là, mais la clinique Tao, c'est comme nous, on est à Val-d'Or présentement, mais c'est vraiment un projet qu'on veut déployer au niveau régional. Fait que tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Pour l'instant, il y a une ligne régionale, une ligne téléphonique. Il y a une infirmière qui répond, dans le fond, sur les heures ouvrables, là, du lundi au vendredi de 8 à 4. Le numéro de téléphone, c'est le 1-833-825-0462, si jamais quelqu'un ressent le besoin.
Peux-tu nous
répéter? 1-833-825-0462. On pourra le mettre, j'imagine, en description du balado.
Donc ça, n'importe qui peut communiquer avec ce numéro de téléphone-là.
N'importe qui. Dans le fond, c'est vraiment pour autant pour les professionnels qui auraient des questions sur peu importe quoi là, en lien avec la consommation ou le traitement de dépendance aux opioïdes. Mais aussi pour les proches qui auraient des questions pour leur quelqu'un qui connaisse qui a un problème ou même la personne elle-même pourrait appeler pour dire, dans le fond, qu'elle a besoin d'aide puis qu'elle aimerait avoir débuter un suivi. Puis l'infirmière, elle, ce qu'elle peut faire, c'est guider la personne, l'orienter vers la bonne place. Puis si c'est pas finalement la bonne place, ben elle va pouvoir l'envoyer.
Ça prend pas une référence d'un médecin là, pour avoir accès à ça. Fait que n'importe qui peut appeler.
Wow, ça c'est cool.
On essaie vraiment de prendre en charge rapidement les personnes parce qu'on sait que c'est difficile pour les gens de demander de l'aide. Fait que le moment où ce qu'ils font, ben il faut comme le saisir tout de suite. Fait que dès qu'ils appellent, on enclenche le processus. Puis l'infirmière va, t'sais, tout dépendant dans la ville où ce que la personne se situe, va contacter le médecin, faire l'évaluation, expliquer un peu c'est quoi notre programme. Puis tout ça. Là. Fait que c'est quand même très efficace.
Et puis je me permets, parce que là, moi, je suis quand même intervenante à la base, mais de rajouter qu'on a aussi des intervenants psychosociaux qui travaillent dans vos équipes.
Oui, ben oui.
On ne l'a pas mentionné, hein, mais on travaille en équipe aussi avec une intervenante. Puis, tu sais, on parlait tantôt là, que la dépendance, ben il y a une composante physique, mais il y a aussi une composante psychologique. Fait que de travailler en équipe, ça nous permet vraiment d'adresser cette composante-là aussi. Je dois dire aussi qu'on on est vraiment une belle équipe à Val-d'Or en particulier, mais ça s'en vient dans les autres villes parce qu'on a la chance de travailler.
On a des belles équipes aussi dans les autres secteurs, mais je comprends que vous avez...
Mais je pense qu'on est juste un coup de cœur. On a un peu plus d'avance, les autres. Là, mais
ça fait un petit peu plus longtemps qu'on est là, mais ce que j'allais dire, c'était qu'on travaille aussi avec un acupuncteur. Oui, parce qu'on se rend compte là, que l'acupuncture a quand même été démontrée efficace pour... non seulement la gestion de la douleur chronique, fait que c'est une autre façon d'aider à soulager nos patients pour diminuer leur besoin de prendre des opioïdes pour la douleur. Mais l'acupuncture, on sait qu'elle peut aussi aider pour les symptômes de sevrage puis pour les cravings. Ouais. C'est une belle façon là, non pharmacologique.
C'est une belle alternative, ouais. Je trouve qu'on peut proposer aussi. Vraiment. Là.
On est chanceux pour vrai de pouvoir bénéficier de ça. Là. Vraiment.
OK. Cool. Hey, avant qu'on termine, auriez-vous des choses que, ou des warnings ou des avertissements ou des choses que vous voulez que les gens retiennent par rapport à la clinique Tao ou aux surdoses d'opioïdes?
Ben, moi, je l'ai dit un peu, mais dans le but de sensibiliser les gens, c'est juste de garder en tête qu'il n'y a pas une personne qui est plus à risque qu'un autre, là, que vraiment tout le monde peut être à risque. Fait que de s'informer comme il faut sur la médication qu'on prend. C'est sur l'naloxone. On va avoir un autre épisode aussi sur la prévention des surdoses. Là, fait qu'on pourra en reparler.
Ben oui, parce qu'on parle des services, du beau service que Dr. Venn aime avec la clinique Tao à Val-d'Or, mais on a aussi un gros coup de cœur qui est le centre de prévention des surdoses qu'on a à
Val-d'Or.
Oui,
c'est ça.
Donc, oui.
Sinon, ben je pense qu'on a pas mal fait le tour, mais François, j'aurais envie de te poser une dernière question. Mais t'es pas obligé de répondre, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir travailler en dépendance?
J'ai fait ma médecine à Montréal, ça fait, tu sais, moi, je suis médecin de famille, là, c'est une spécialité qui permet vraiment de voir, la personne dans sa globalité, fait qu'on se concentre pas sur un organe ou un système en particulier, on voit vraiment, tu sais, toutes les facettes de la personne, je trouve que c'est une belle spécialité justement pour les personnes qu'on a un peu à la clinique. Fait que souvent, qui ont un petit peu d'enjeux de santé mentale, qui ont une certaine précarité sociale. Puis en fait, c'est ça. Moi, c'est les patients que j'ai toujours aimés là, parce que je trouve qu'ils sont attachants. Je veux dire, nos clients à la clinique...
sont vrais, surtout.
On les aime. Des fois, ils nous énervent un peu, mais on les aime quand même d'amour. Fait que je pense que c'est en premier lieu de ça. T'sais, moi, j'avais été exposée un petit peu dans mes stages quand je faisais ma médecine. Puis c'est vraiment là que j'ai réalisé que c'est ça. C'était une super belle clientèle. C'est une clientèle aussi qui est toujours un peu méconnue, contre laquelle on a quand même des préjugés, puis qui, à cause de ça, souvent va recevoir des soins peut-être
moins bonne qualité.
C'est ça, de moins bonne qualité, ou va avoir plus de difficultés à accéder aux soins. Fait que moi, c'était vraiment le domaine de la médecine de famille où je voyais que je pouvais faire une différence, justement, pour augmenter l'accessibilité aux soins.
On a vraiment un lien privilégié aussi avec ce genre de clientèle-là, je trouve.
On les connaît de A à Z.
On connaît beaucoup leur histoire. Ils ont vraiment un bon lien de confiance avec nous. Fait que, c'est le fun.
Mais je vous remercie, en fait, qu'on ait des gens comme vous qui sont bienveillants et qui ont à cœur le bien-être de tout le monde sans stigmatisation. C'est super important. Fait que merci.
Ben merci.
Eh bien, bonne c'est journée.
Tout. Merci. Bye-bye.
Nous tenons à remercier Adama Productions pour le prêt de l'équipement qui a rendu l'enregistrement de cet épisode possible.